Bonjour, assalamu alaikum, shalom, apoya, enloale. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ce studio en cette journée du mercredi 15 mars 2023. Il sonne 11h, passé légèrement de quelques instants, et nous vous saluons, vous qui nous écoutez sur Canal FM, sur les antennes des médias partenaires Radio Lumière à Anéro, Central FM à Sokodé, La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Courtoisie à Dapan, et dans le monde entier, les radios et autres canaux numériques qui nous relaient jusqu'auprès de vous. Émission réalisée par le duo Vitogbe Kokou Michel Tomega et Gérald Kodjo Akucha. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de santé. Naturellement, question de santé, épidémie, des maladies rares, dont la trisomie. Et nous avons l'honneur d'avoir la présidente de l'association Maestri, entendez par là, association à Maestri, entendez par là, association mère et amie des enfants trisomiques. Madame Tachène Agbasewadja, bonjour madame.
Bonjour Moussa.
Eh bien, c'est association mère amie des enfants trisomiques à Maestri. Et comme c'est mercredi, nous allons parler naturellement de santé et éducation avec son directeur rédacteur en chef, Abel Ozi, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices.
Nous allons parler aussi d'autres sujets, dont la problématique de la liberté de presse. Et quoi de plus normal de saluer d'abord le président de l'OTM, Observatoire Togolais des Médias, notre cher ami Patom Kokou, Fabrice Pechezi, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour le confrère ici présent, bonjour aux invités, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Et vous imaginez que, à côté de nous également, Abbas Issaka du journal Le Magnan Libéré, bonjour.
Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Canal FM.
Et puis Sylvestre Kokou Béni du journal La Manchette, bonjour.
Oui, bonjour Sass, bonjour à toutes et à tous.
Eh bien, de tout ce que nous allons dire, le sage nous enseigne que si vous donnez l'exemple, vous n'aurez pas donné de règles. Encore une fois, si vous donnez l'exemple, vous n'aurez pas à donner de règles. Je voudrais qu'on commence par l'actualité pressante. C'est l'état de la liberté de presse ici au Togo, parce que c'est aujourd'hui même que le directeur du journal Tampa Express, en fait, le journal et son directeur de publication ont été convoqués devant le tribunal de première instance de Lomé. C'est sur une plainte déposée par le sieur Charles Kokouvi Gafan, le directeur pays de Togo Terminal, et c'est pour diffamation. Le sieur Gafan qui attaque le journal Tampa Express et son directeur de publication pour diffamation. Et nous apprenons, avant même d'entrer au studio, que le dossier est renvoyé au 26 avril 2023. C'est pour le paiement de la caution par le sieur Gafan. C'est la dépêche de ce jour qui nous amène à d'autres sujets sur la presse. Quand le confrère La Dépêche écrit, en donnant la parole à Abbas Kaboua, qui dit que la justice doit fermer le dossier Ferdinand Aïté. Vous rappelez cette affaire qui a contraint Ferdinand Aïté à quitter le Togo pour se mettre à l'abri, d'après le message qu'il nous a envoyé. La Dépêche également, qui écrit toujours la page 3, crise aiguë de la presse togolaise. Et Sifor Nyasingbe échangeait aussi avec les médias d'État privé. Et puis, ne pas oublier que il y a quelques jours, ce projet d'une certaine importance a été lancé. Le confrère, le triangle des enjeux, nous le rappelle aujourd'hui, à savoir l'OTM, l'IPAO et le FAMEDEV, qui sont en ordre de bataille sur un programme qui va durer 3 ans. Monsieur le président de l'OTM, rebonjour.
Bonjour à toi.
Alors, l'actualité pressante avec Tampa Express et son directeur qui viennent de comparer au tribunal le cas Ferdinand a été tous les articles écrits par le tribunal des enjeux. Ce projet qui vient d'être, le programme qui vient d'être lancé et dont l'OTM est la cheville ouvrière, tout cela nous pose le problème de la défense et de la promotion de la liberté de presse au Togo, mais également le besoin pour nous d'exceller davantage par le professionnalisme, n'est-ce pas?
Oui, bien sûr. Je crois que quand vous posez généralement la question à quelqu'un de savoir s'il est libre, je crois que c'est une réponse à laquelle très souvent il est difficile de répondre, parce que la liberté totale, je ne sais pas s'il y a un être sur cette terre qui peut se targuer de l'avoir. Donc, ceci dit, la question de la liberté, c'est une quête perpétuelle et un combat de tous les jours. Parce que quand vous prenez un peu l'évolution de notre pays depuis les années 90, qui annonce un peu l'ère démocratique, il y a eu beaucoup de combats pour qu'on atteigne un certain niveau de liberté. Mais ce n'est pas fini. On peut pas dire aujourd'hui que c'est fini pour la liberté, que c'est bon. On peut passer à autre chose, parce que ça ne tient qu'à un fil. Et c'est parfois en dents de scie. Aujourd'hui, vous pouvez sembler être libre, le lendemain, il y a autre chose qui vous rapporte, qui vous rattrape et qui remet en cause cette liberté. Je crois que c'est ce qui explique un peu le projet que nous avons l'obligation de réussir en collaboration avec Ipanos et puis Famedeb, qui constitue le consortium qui va mener donc ce projet-là, qui a pour but de promouvoir la liberté d'expression, qui est mère de la liberté de presse, et puis la question de la défense de la protection des défenseurs des droits de l'homme. Alors donc c'est un projet qui est à cheval entre ces deux thématiques là. Et comme vous l'avez si bien dit, les deux objectifs principaux, c'est d'abord le premier, c'est d'abord nous. Il faudra, c'est-à-dire le monde des médias, la presse et tout cela, il faudra qu'on fasse notre travail dans le respect strict des lois qui l'encadrent. Et puis ensuite, l'autre volet de l'objectif du projet, c'est d'amener, de faire de plaidoyer pour que les espaces de liberté dont nous disposons s'agrandissent davantage. Et ce qui suppose une certaine évolution du point de vue juridique et institutionnel. Donc voilà les deux objectifs spécifiques de ce projet qui a été lancé et qui a déjà pris forme et dont l'exécution va commencer dans les prochains jours par des actes concrets. Il y a beaucoup de composantes qui composent le projet et ça va s'étendre pratiquement sur 3 ans.
Et nous allons en parler au fur et à mesure que les différents angles de ce projet ou de ce programme seront déclinés. Naturellement que nous attendons les auditeurs à partir de 12h qui pourront appeler sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75, pour émettre leur avis sous forme de questions ou bien de commentaires. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet que nous allons développer d'ici là.
Peut-être par rapport à l'actualité en ce qui concerne les journaux qui comparaissent devant la justice. Moi, je l'ai toujours dit, nous sommes dans un état de droit et tout citoyen est libre d'ester en justice s'il estime que il a été égratigné ou il a un souci. Mais généralement, nous disons tout simplement que nous souhaitons tout simplement que le droit soit dit. C'est-à-dire que Charles Gaffin porte plainte contre Tampa Express, c'est son plein droit en tant que citoyen de porter plainte. Jusqu'alors, ce n'est pas encore une violation de la liberté de presse. Mais nous attendons voir le verdict qui sortira donc peut-être de cette comparution. Vous avez dit qu'il a été renvoyé. C'est à ce niveau-là, parfois, il y a débat entre est-ce que le droit a été dit et s'il n'a pas été dit. Mais pour le reste, c'est toujours mieux quand même, si on ne va pas à l'OTM ou à la HAC, d'aller devant la justice, on a la liberté de le faire. Mais le scénario qu'on redoute, c'est ce qu'on a eu dans certains pays où parfois, au lieu de s'afficher à visage découvert pour dire « vous avez pondu un article sur lequel je ne suis pas d'accord », on choisisse plutôt de se tapir dans l'ombre quelque part, et quand le journaliste passe, on essaie de l'enlever pour qu'on ait les situations qu'on a eues dans d'autres pays. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Si les gens estiment que les écrits les égratignent et qu'ils ne sont pas d'accord, c'est normal qu'ils aillent devant l'OTM, à la HAC, et du moins devant la justice, pour que le droit soit dit. Et là, notre souhait, c'est que le droit soit effectivement dit, Parce que comme vous le savez, il y a eu des circonstances où peut-être devant le tribunal, une chose a été dite et au niveau de la Cour suprême, par exemple, on a eu un autre résultat. Mm-hmm. Le combat aujourd'hui, c'est que on ne soit pas là dans une logique de condamner seulement les journalistes à chaque fois qu'un dossier concerne la presse. Il faudra également mettre du sérieux, même si on n'a pas d'argent, la justice est là pour aussi les faibles. Et c'est ce côté de la justice-là que nous souhaitons.
Merci. La défense, hein, la promotion de la liberté de presse d'expression, mais également la quête quotidienne de l'excellence. C'est notre credo. Silas Béni.
Non, juste un détail dans la même logique. Je crois que pour le même dossier, je tiens donc à le préciser, le confrère a été déjà sanctionné par
suspendu,
la HAC. Suspendu. Oui. 3 mois par la HAC. Mais comme le plaignant n'est pas satisfait, donc il a voulu donc porter l'affaire devant les tribunaux. Donc il faudrait, c'est également un élément important qu'on doit tenir compte.
Oui, mais ça se permet qu'on s'accorde un peu de temps.
Oui, oui.
Effectivement, ça, c'est des situations aussi que nous regrettons. C'est-à-dire que, bon, l'affaire est déjà allée à la HAC, le journal a été suspendu. On aurait aimé que ça s'arrête là. Bon, mais le plaignant a voulu poursuivre. Mais ça m'amène à aller sur l'autre sujet qui concerne Ferdinand Haïté. C'est-à-dire qu'à l'époque où le problème était arrivé, c'est vrai, on a fait toutes les démonstrations pour dire que le code de la presse ne fait pas ceci ou cela. Mais on a quand même, il y a eu une privation de liberté dans cette affaire. Et puis ensuite, on a demandé aux confrères de faire certaines choses pour qu'on puisse
surtout de présenter
des excuses publiques pour qu'ils puissent bénéficier du pardon. Et je crois que quand vous le faites et les gens mettent leur orgueil de côté en sourdine pour effectivement faire mea culpa, faire profil bas et qu'on revienne encore sur cette affaire, à un moment donné, j'ai l'impression que il y a un abus qui, du point de vue moral, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, bon, si tu présentes tes excuses, j'arrête, et la personne s'exécute, le fait, et maintenant on maintient l'affaire comme une épée de Damoclès. Bon, à chaque fois que tu veux lever le petit doigt, on te le brandit. Je crois que sur ce côté-là, moralement, moi je dis personnellement que ça pose un problème.
Un problème un peu, hein.
Parce que ça nous complique parfois la tâche.
Oui.
Puisque parfois, c'est nous qui allons, nous les organisations de presse, c'est nous qui allons vers les confrères pour leur dire, fais profil bas, accepte tout, voilà, voilà. Et parfois, certains sont réticents. Mais de ces exemples-là, peuvent amener à l'avenir des gens, c'est de dire, bon, si ça n'est ainsi, je dis, bon, s'il faut que je demande pardon, je mette mon orgueil de côté, je me rabaisse, je fais le mea culpa, et qu'au même moment, on m'inflige ce qu'on devait m'infliger, vous comprenez que la personne aurait pu dire, à quoi bon faire tout ça là.
Je comprends.
Cette obligation morale, là, que les gens doivent voir dans cette histoire.
Merci, je comprends que telle situation vous mette en mauvaise posture, vous, les responsables. Donc, question professionnelle. Abba Chisaka,
oui,
pour clore ce chapitre-là.
C'est pour ajouter, peut-être c'est par rapport à toutes ces circonstances dressées par le président de l'OTM que Abbas Kabwa demande de classer cette affaire.
Mm-hmm.
Parce que vous avez vu comment les organisations de presse sont débattues. Pour que les deux confrères qui étaient en prison, Joël Egapé à son âme et Ferdinand Haïté, recouvrent leur liberté à. En fin d'année, en décembre
2021.
Et finalement, les gens disent, bon, le dossier est classé. Et personne ne comprend pourquoi ces derniers moments, ces derniers temps, de façon surprise, on ressuscite cette affaire, ce dossier. Donc, or, on nous a dit, l'affaire est presque classée, on l'oublie parce que les gens ont présenté des excuses. Et que d'autres ont accepté. Si aujourd'hui on vient avec cette affaire et on met quelqu'un qui est encore allé se cacher quelque part, ce n'est pas bon. Il faudrait que les gens reviennent sur leur position et qu'on puisse aller, quoi.
Merci. Question de santé avec. Nous en avons parlé, nous en parlons quelques fois et aujourd'hui, c'est le confrère à l'antenne qui revient, à savoir cette épidémie de méningite. Qui sévit au nord du Togo, dans la préfecture de Oti Sud. La lanterne qui écrit « Épidémie de méningite à Oti Sud, au moins 105 cas et 10 morts déjà enregistrés. Le gouvernement qui prend le taureau par les cornes. » Et comme il n'y a pas de hasard, Abel, rebonjour.
Bonjour Sas.
Avant même de nous rejoindre, tu sors d'une rencontre qui vient de durer ce matin sur l'épidémiologie.
Oui, exactement. Ce matin, il y a un congrès international sur l'épidémiologie à l'hôtel 2 février. Et c'est un congrès qui a regroupé tous les épidémiologistes de l'Afrique de l'Ouest et ailleurs pour venir réfléchir sur la surveillance, sur la riposte des épidémies, des pathologies qu'on a en Afrique et en particulier au Togo. Donc, le temps a été donné ce matin et les travaux vont continuer jusqu'à demain.
Merci. Nous continuons avec votre article à la page 2 intitulé « Les maladies rares, difficiles à diagnostiquer et à corriger ». Rappelle que le 28 février dernier, c'était la journée internationale des maladies rares. Ces maladies qui constituent un enjeu majeur de santé publique. Et ces maladies rares, ou encore dites orphelines, Abel, ça dit des maladies, des pathologies pour lesquelles il y a très peu, voire aucun traitement à ce jour.
Oui, quand on parle de maladies rares, cela ne veut pas dire que ces maladies n'existent pas. En fait, ces maladies existent, mais sous une faible proportion. Donc, on peut voir que la plupart de ces maladies sont d'origine génétique. Donc, comme vous le dites, un grand nombre sont également dites maladies orphelines. C'est-à-dire que ces pathologies pour lesquelles il n'y a pas, ou bien il y a peu, ou bien voire aucun traitement. Donc, ces maladies rares sont chroniques et souvent... Et l'atteinte est visible dès la naissance ou dans l'enfance. Donc, on peut constater que certains même peuvent paraître à l'âge adulte. Donc, dans notre communauté ici au Togo, on peut trouver certaines maladies comme la trisomie 21, dont Madame Agbassi va nous en parler tout à l'heure. Il y a aussi l'hémophilie. Donc, c'est en quelques maladies qu'on a dans nos communautés et qui sont chroniques. Donc, les personnes qui sont victimes de ces maladies sont très vulnérables. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'experts font assez d'efforts pour accentuer la lutte contre ces maladies.
Merci. La trisomie 21, l'hémophilie ou encore ce que vous appelez le spina bifida. Et l'article dit que 80% des maladies rares sont d'origine génétique. Et le plus souvent, elles sont sévères, chroniques, d'évolution progressive et affectent considérablement la qualité de vie des personnes malades. Ces maladies rares entraînent un déficit moteur, sensoriel ou intellectuel et une forte perte totale d'autonomie. Je voudrais m'associer à la douleur de cette auditrice qui nous suit. Et qui se rappelle avec beaucoup de douleur qu'en 1981, elle a eu une fille atteinte de trisomie 21 qu'elle a perdue de bas âge. Beaucoup de courage à vous, madame. Et nous en venons maintenant, madame Agbassi Ouadja Roubou.
Oui, bonjour, Sas. Bonjour.
Alors, la présidente de l'association Mère Amie des Enfants Trisomiques à Maestrie, eh bien... je rappelle que le 21 mars prochain sera la journée mondiale de trisomie, n'est-ce pas? Eh bien, avec beaucoup de courage, vous présidez cette association. Vous m'avez confié, si vous le permettez, que vous-même, vous êtes mère d'un enfant trisomique. Alors, voulez-vous nous parler comment ça se fait? Comment vous le faites, la prise en charge de ces enfants trisomiques?
Merci, Sas. D'abord, je vais définir très brièvement ce que c'est que la trisomie 21. Mm-hmm. Comme M. Abel vient de le dire, la trisomie 21, c'est une maladie génétique. C'est une malformation, au fait, des chromosomes. Sur la 21e paire des chromosomes, au lieu d'être deux, vient à trois chromosomes. Mm-hmm. Et donc, l'enfant naît avec un déficit intellectuel et un retard psychomoteur. Et tout. Donc, la prise en charge, elle est multidisciplinaire. Oui. D'abord, la prise en charge commence dès le bas âge. Quand un enfant naît et qu'on constate qu'il est trisomique, faut pas l'abandonner, faut le couvrir d'affection, faut l'aimer. Donc, ça, c'est le tout premier. C'est la toute première prise en charge qui doit commencer dans nos familles même. Et quand cet enfant grandit, il faut l'amener aux soins, voir un pédiatre, voir les kinésithérapeutes, les orthophonistes, puisqu'ils ont un retard psychomoteur, un retard langagier, et s'associe aux problèmes oculaires, ils ne voient pas bien. Donc, il faut aussi consulter l'ophtalmo. Souvent, ils ont des otites. Il faut voir les ORL. Et souvent, ils ont aussi des problèmes respiratoires. Et ça ajoute aux muqueuses, buccales qu'ils ont souvent aussi. Mm-hmm. Donc, la prise en charge, elle est vraiment multidisciplinaire et elle nécessite beaucoup de moyens.
Beaucoup de moyens de la part de la maman, oui, du des papa. Parents. Mais c'est en cela que la grande famille africaine sera de besoin avec les oncles, les tantes, les voisins, les amis.
Oui.
Tout cela devrait se mettre la main à la pâte pour que le poids ne repose pas uniquement sur la maman parents, ou sur le papa.
Oui, tout à fait.
Eh bien, je rappelle que le 21 mars prochain, c'est la journée mondiale de la trisomie. Et le thème qui est choisi, c'est « Place des enfants trisomiques en milieu scolaire ». C'est dit, madame, qu'un enfant trisomique peut être scolarisé.
Oui, tout à fait. Un enfant trisomique, lorsqu'il est vite pris en charge, il peut aller à l'école et il peut évoluer. Mais chez nous, ici, c'est vrai que l'État prône une éducation inclusive avec les autres enfants, mais dans les écoles, ce n'est pas du tout ça.
Mm-hmm.
Quand tu amènes ton enfant, que ce soit à l'école publique ou privée, l'enfant, d'autres enseignants refusent carrément. Si la personne est gentille, te dirige vers l'éducation spécialisée, qui ne sont que quatre dans ce Lomé.
Quatre éducateurs spécialisés.
Quatre centres d'éducation spécialisés. Il y a celui de Bé, Nkafu Witi, Nyonkonakwe et celui de Solidarité.
Mm-hmm.
Donc, ceux qui ne sont pas du tout gentils vous refoulent avec des mots blessants, des regards pas possibles. Et cet enfant même est confronté au regard de ses amis, d'autres même qui taquinent. L'enfant n'est pas vraiment à l'aise. Donc, c'est ce qui fait que, voilà, la stigmatisation, c'est tout ça là, qui fait que d'autres parents, si tu n'as pas le cœur, tu dis, bon, ma fille, mon enfant, reste à la maison. Or, tout enfant a droit à l'éducation.
Merci. Donc, la place des enfants trisomiques en milieu scolaire, c'est le thème sur lequel se célèbre la journée mondiale de la trisomie 21. Et vous avez certainement des invités au programme, madame.
Oui. Et d'abord, le 18, le samedi prochain, nous aurons le sport sur le terrain de Kové, non loin du siège de la Maîtrie.
Mm-hmm.
Je rappelle que tous les samedis, les enfants de l'association se regroupent avec un coach, le coach Nabim, que je salue très fortement, et qui fait le sport avec ses enfants, puisqu'ils en ont besoin.
Mm-hmm.
Il les fait faire des exercices, ils courent, ils font des trucs pour limiter leur obésité, puisque l'obésité aussi fait partie de leur truc.
Mm-hmm.
Donc, on aura le sport le 18. Le 18 prochain, il aura le sport. Après, nous aurons des émissions radio et télévision pour sensibiliser la population sur la maladie. Et également, le 21 mars même, nous aurons une conférence débat au CCR d'Agouenivé, en partenariat avec la JCI, pionnière d'Agouenivé.
Mm-hmm.
Oui.
Voilà, alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit des parents d'enfants trisomiques ou bien toute la population?
Oui, à tous les parents d'enfants trisomiques, je leur dis beaucoup de courage. Comme on dit communément, Amina Babadé, puisque ce n'est pas facile d'avoir un enfant trisomique. Et à tout le Togo, j'exhorte toute personne qui croise un enfant trisomique de l'offrir, de lui donner un sourire.
Un peu de chaleur.
Un peu de chaleur. ça, ce n'est pas contagieux, la trisomie 21. Ce que nous rencontrons dans la rue avec nos enfants, ce n'est pas facile. Donc, il faut sensibiliser la population pour que eux, les parents, c'est-à-dire les adultes, pour que eux, à leur tour, sensibilisent leurs enfants. Ah, si tu vois un enfant en situation délicate, faut pas lui lancer caillou, faut pas lui le taquiner, afin que ses enfants puissent se sentir à l'aise dans les écoles.
Merci, merci, d'autant plus que c'est un accident génétique, hein, ça peut y arriver à tout le monde. Je ne vais pas citer de cas, mais nous connaissons des présidents, d'ailleurs et d'ici, de grands entrepreneurs, des hommes très riches, très puissants, qui ont des enfants, les pauvres aussi, ça peut y arriver à tout le monde. Un enfant de un enfant souffrant de trisomie 21, ou bien de ces maladies rares dont on a parlé, ou bien de tout handicap, reste une personne humaine avec tous les droits inaliénables à sa personne humaine. Merci, madame Gbassi Ouadja, pour ce courage. Merci. Dieu vous aidera à trouver de l'énergie et des moyens pour vous occuper de ces enfants. Abel, je reviens à vous. Quand Santé Éducation nous invite à prévenir les intoxications alimentaires dans les écoles.
Exactement, nous avons déjà souligné ici sur ce plateau un fait qui s'est produit dans le Dankpen où plusieurs enfants ont été ont consommé Akpan et ont été victimes d'intoxication. Nous revenons encore sur ce sujet pour encore alerter nos bonnes dames sur l'hygiène, la sécurité sanitaire des aliments dans les écoles.
Merci. Mais pas seulement dans les écoles, hein. Tu sais que les décès deviennent occasion de fête. Quand il y a funérailles, il y a des gens qui mettent 3-4 jours pour préparer. Il est également survenu des cas d'intoxication alimentaire au repas qu'on offre après les enterrements, si ce n'est les anniversaires ici et là. À chaque fois qu'on prépare pour une foule, on doit y mettre beaucoup de soin, n'est-ce pas, Abel?
Exactement, exactement, beaucoup de soin.
Alors, l'emballage plastique que Santé Éducation nous présente encore une fois comme un tueur silencieux. Abel?
Oui, l'emballage plastique, c'est vrai, c'est notre quotidien aujourd'hui. Tout le monde achète dans un emballage plastique. Et vous savez, le groupe d'experts intergouvernementaux des Nations Unies a montré que au titre des objets ou bien des produits qui causent du désastre écologique ou bien environnemental, il y a le plastique. Donc, c'est pour dire que le plastique nous empoisonne petit à petit. Et aujourd'hui, on peut constater que nos commerçants citadins, je veux dire nos bonnes dames, ont les fait tomber ou bien ont abandonné et les feuilles de manioc, les feuilles de teck, les feuilles de bananier au profit de ces emballages-là pour conserver les aliments.
Parce qu'ils sont pratiques et très peu moins chers.
C'est ça. Or, quand on conserve, par exemple, Akman, Ablo, et comme, par exemple, dans ces emballages plastiques, attention, attention, c'est hautement toxique. C'est hautement toxique selon les experts. Pourquoi? Parce que ces emballages sont constitués de substances toxiques. Et leur ennemi, c'est quoi? C'est la chaleur. Donc, au contact des aliments, attention, c'est hautement toxique.
On achète tout ce que tu as cité, mais maintenant, de plus en plus, on achète la pâte avec la sauce, même le foufou, la sauce fumante, qu'on emballe dans les sachets plastiques. Tu as parlé des revendeurs, mais parle de nous. Nous avons abandonné les assiettes, nous nous présentons les mains nues devant le vendeur, la vendeuse. Alors, on nous l'emballe dans les plastiques et à chaud.
Oui, c'est-à-dire, tout ça interpelle le consommateur et le vendeur. Les bouillies chaudes dans les sachets plastiques, attention, nous alertons. Vous savez, et du jour au lendemain, les gens ne peuvent pas se débarrasser, mais il faut toujours continuer pas sensibiliser, pas éduquer les gens par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, c'est un désastre. Écologique, sanitaire, selon les experts. Et ils ont toutes les preuves possibles pour nous dire que, attention, attention, évitons de conserver, évitons de
c'est
manger.
C'est un tueur dans ses, silencieux. On va terminer par cet article. Je ne sais pas si quelqu'un de vous à la rédaction de Santé Éducation a une femme enceinte, ou bien l'un de nous ici. Mais Santé Éducation nous parle aujourd'hui du traitement de la dépression chez la femme enceinte. D'abord, une femme enceinte qui peut souffrir naturellement de dépression, c'est un phénomène assez normal au début, mais la femme enceinte a justement besoin de soutien, n'est-ce pas?
Oui, la dépression n'est pas seulement un trouble, c'est une maladie. Mm-hmm. Et une femme enceinte, il peut arriver qu'elle souffre de la dépression. Et quand cette dépression n'est pas prise en charge rapidement, elle peut amener à des complications sur sa santé et celle du fœtus. Donc, du moment où on constate que la femme enceinte souffre de dépression, il faut rapidement l'amener à l'hôpital. Et surtout, le soutien familial est important. Le mari, l'entourage, il faut toujours s'occuper d'elle. Il faut toujours l'amener à avoir une psychologie, sans stress, et à ne pas être dépressive, à ne pas être anxieuse, pour que sa santé et celle du bébé.
Merci. Et Sylvestre Béni, tu as compris que la première chose, c'est que l'auteur de la grossesse soit autant que possible présent à côté de la femme.
Nous avons compris.
Tu as compris. Donc, on ne continue plus.
Les deux aussi.
Tu as compris.
Nous
Fabrice,
avons compris.
Fabrice a compris aussi.
Tout le monde a compris.
Abel lui-même a compris.
Ouais, ça va.
Et Abbas a compris.
C'est noté.
Et tout le monde a compris, même les célibataires de Canal FM ont compris. Eh bien, quand nous sommes l'auteur d'une grossesse, autant que possible, trouvons le temps d'être présent physiquement, à côté de la jeune fille svelte que nous avons rendue.
Ronde.
Avec tout ça là. Et il faut être là, Abel, n'est-ce pas?
Exactement.
Ce qui est dit est dit.
Oui.
Et ce qui est dit doit être fait.
C'est ça.
Déclaration des biens et avoirs. C'est quelque chose sur lequel nous revenons souvent parce que c'est la Constitution qui l'a fixé ici depuis 1992. Ça fait 31 ans. Ça a mis du temps, mais il y a quelque temps, finalement, une loi organique a été proposée par le gouvernement, votée par l'Assemblée nationale, mais ça fait déjà quelques années. Les médias, nous continuons pas à en parler. Madame Awanana, je dirais la pauvre, elle crie dans le désert. Mais à ce jour, si je ne m'abuse, il n'y a que elle seule qui avait déclaré ses biens il y a un an. Elle a renouvelé ça il y a quelques jours devant la Cour suprême. Maintenant, elle va s'ennuyer moins parce qu'elle a un compagnon. Et le compagnon, c'est le président de la APLUSIA. Et comme le dit la manchette, le président de la APLUSIA qui a ouvert le bal en déclarant ses biens hier. Le libéral aussi le dit à la page 2. Le président de la APUCIA qui a relevé le défi, je rappelle que c'est un défi constitutionnel. Ouais. En principe, c'est une obligation. Et Liberté qui trouve déclaration des biens et avoir un début très timide. Basisaka, c'est ce que la Constitution a prescrit, mais un début vraiment, vraiment timide pour la déclaration des biens et avoir.
Oui, c'est très timide. Et on a l'impression que les gens ne veulent pas aller déclarer leurs biens. Bien que cette déclaration soit couverte de toutes les précautions, mm-hmm. parce que quand vous allez déclarer vos biens, personne ne sait ce que vous avez déclaré. Même la présidente, la médiatrice de la République ne sait même pas ce que vous avez déclaré. Vous faites une déclaration selon ce que la loi vous a dit et vous la déposez comme ça et vous en allez. Mais malgré toutes ces précautions qui ont été prises, on a l'impression que les gens ont peur d'aller faire cette déclaration. On a vu, quand Mme Awanana a fait sa première déclaration des biens, il y a beaucoup qui se sont dit, bon, nous allons que le gouvernement va se mettre dans la danse, va aussi poursuivre. Et tout le monde attendait. On a attendu jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Awanana refait bis repetita.
Oui. Elle a renouvelé,
sa déclaration. Et maintenant, elle a été suivie par le nouveau président de APLUSIA
qui vient juste d'arriver. Alors qu'il y a d'autres présidents d'institutions en place depuis des années
qui sont là en place, qui n'ont pas déclaré. Celui-ci a été nommé il y a seulement quelques jours et il allait se sacrifier à la tradition. sacrifié à la tradition, il a présenté ses biens, il a fait sa déclaration de biens, et on se demande qu'est-ce que les autres présents d'institutions qui sont là avant lui attendent pour le faire. Aujourd'hui, tout est clair que la voie est déjà balisée avec Aonana, mais qu'est-ce qui se passe que les autres attendent et ils tardent à le faire leur, leur déclaration des biens devant la Cour constitutionnelle.
Bon, comme ça a commencé, on peut présager que ça va aller. Je rappelle, Fabrice, que c'est depuis 1992 que nous avons voté la Constitution qui contient cette disposition, qui s'impose. À un moment, on nous a dit qu'il manquait une loi organique. La loi organique a été proposée par le gouvernement, votée par l'Assemblée, ça fait déjà quelques années. Alors, on a pris son bâton de pèlerin. Elle appelle, elle sensibilise, elle forme. Elle est allée jusqu'à former le gouvernement sur la problématique de déclaration de biens. Mais hier, Awanana qui rappelle encore que le président de la République, tout le gouvernement, concerné par le premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, les députés, les présidents d'institutions sont assujettis à cette déclaration. Mais comme nous avons la foi, Fabrice, ça va aller, n'est-ce pas?
Oui, moi je crois que c'est la normalité, même c'est au niveau du président de Aplusia, en fait celui qui vient d'arriver. Oui. C'est comme ça, ça doit normalement se faire. Mm-hmm. C'est-à-dire quand vous arrivez en début d'exercice, vous présentez vos biens, et le jour où vous ne serez plus à ce poste, vous faites une autre déclaration et on fait la comparaison pour voir qu'est-ce qui a pu se passer entre durant cette période-là.
Surtout si des gens avaient des choses à vous reprocher.
À reprocher, voilà. Mais là, quand je prends l'actuel gouvernement, moi je dis effectivement, pour l'instant, c'est pas la peine. Oui, les gens sont arrivés ministres. En principe, c'est au lendemain de la publication de la liste des membres du gouvernement que les gens devraient faire comme le président de Aplusia vient de le faire. Et maintenant, bon, maintenant les gens ont fait 3 ans, d'autres dans la 4e année. Bon, ils vont aller présenter quel bien, à partir de quel moment, et pour que ça serve comment. Mais il faudra qu'à un moment donné, ça commence, et c'est pour cela que je dis, ça fait bien qu'aujourd'hui, le président de Aplusia qui vient d'arriver a fait ça. S'est acquitté à cette obligation constitutionnelle. Et maintenant, tous ceux qui seront nommés à des postes où ils auront à gérer des biens de l'État, je crois qu'il ne faudra pas laisser la situation comme on l'a actuellement avec et le gouvernement et l'Assemblée nationale et les autres institutions où les gens ont déjà, c'est-à-dire fait un long temps, s'ils ont été corrompus durant cette période, on n'a aucune idée parce qu'au début, on ne savait pas exactement. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire au début. Donc, dorénavant, que la nouvelle nomination fasse comme le président de Aplusia vient de le faire.
Voilà, je rappelle que c'est pas une trouvaille togolaise. Dans la sous-région, on a vu les anciens présidents gommés depuis par des coups d'État au Burkina, au Mali, au Niger. Ils ont déclaré leurs biens et ça même a été rendu public. Nous, au Togo, ici, nous avions appris ce que l'ancien président Roch Marc-Christian Kabore avait déclaré.
Et moi je dis même que ça couvre pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a des rumeurs qu'il y a des ministres qui sont sur 2 chantiers au même moment. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il avait avant qu'on ne le nomme ministre? Moi je me souviens, il y a un proche qui avait été à un poste. Il avait une maison avant qu'il ne le nomme. Il dit que lui va organiser des visites chez lui pour que les gens sachent ce que lui a comme maison. Puisqu'il venait d'arriver,
oui.
Pour que le temps ne passe pas et un jour on dise que c'est parce qu'il est nommé à tel poste qu'il a fait cette maison-là. Il y a des ministres aujourd'hui qui s'expliquent que leur terrain qu'ils ont là, ils l'ont acheté quand ils étaient étudiants.
Oui.
Vous voyez que s'il y avait cette déclaration de bien là, les gens n'allaient pas chercher aujourd'hui.
Ça couvre, ça protège.
Parce que parfois il y a des gens qui avaient des biens avant d'arriver à des postes.
Beaucoup.
Mais il y a des moments où on fait l'amalgame. C'est-à-dire que parce qu'il a été ministre pendant 2 ans, même l'héritage que son père lui a laissé, on englobe tout, on dit, voilà ce qu'il a, en été ministre. Or, parfois, ce n'est pas exactement ça la réalité.
Pour ne pas faire de l'hypocrisie, beaucoup de regards se tournent vers le président de la République, vers la première ministre, vers la présidente de l'Assemblée nationale et vers les présidents des institutions de la République. S'ils donnaient l'exemple, cela rassurerait. Et Sylvestre, il y a le cas, par exemple, du président de la Cour constitutionnelle, M. Abdou Assouma, que nous respectons beaucoup, mais c'est devant lui que Awa Nana a fait sa première déclaration. C'est devant lui que Awa Nana est retourné pour renouveler sa déclaration, alors que je ne sais pas si M. Assouma lui-même a déclaré ses biens.
Oui, ça c'est le grand point d'interrogation. Je crois que j'aurais bien souhaité quand même que le médiateur de la République puisse avoir au moins un site d'information, et donc tous ceux qui ont déclaré leurs biens, au moins qu'on les mette sur les sites, même si aujourd'hui nous ne savons pas ce qu'ils ont déclaré comme bien, puisque hier nous étions sur les lieux et nous avons vu, bon, à un moment donné c'était entre le médiateur donc de la République, il y avait un greffier, un assesseur et puis un huissier, et donc le président de la République était donc devant ces personnes là il a déclaré ses biens, et après bon, devant lui donc l'enveloppe contenant donc ces formulaires qui ont été renseignés ont été scellés. Donc c'est ça, la base l'a dit tout à l'heure, même le médiateur de la République ne sait pas ce que le président de la République a déclaré comme bien. C'est en cas donc d'enquête, c'est-à-dire quand à un moment donné si éventuellement on lui reproche un certain nombre de choses, c'est en ce moment-là qu'on ira donc rechercher l'enveloppe pour voir effectivement ce qu'il a déclaré comparativement à ce qu'il a aujourd'hui. Et donc j'aurais également souhaité que cela se fasse en début donc de fonction, puisque c'est ce que dit la loi. Si vous prenez l'article 145, le premier alinéa, c'est ce que dit la loi, la loi constitutionnelle, la loi fondamentale. Maintenant, les gens ont fait des années, plus de 10 ans à leur poste. Maintenant, on demande à ce qu'ils viennent déclarer. Les gens sont prêts à faire des carrières. Voilà. Donc, ils vont déclarer quoi? Qu'est-ce qu'ils avaient maintenant? Bon, 10 ans après, vous voyez? Mais bon, selon donc les informations, nous apprenons que jeudi prochain, il y a quand même des membres du gouvernement qui vont passer, qui vont faire donc la déclaration. Donc on verra si d'ici là ils seront encore hésitants ou ils vont le faire.
Mais j'ai bien aimé ce que Fabrice a dit. Cet acte, un, il est constitutionnel, et deux, il protège.
Il protège.
Il y a des gens qui sont déjà riches avant d'être nommés.
Ouais.
Soit ils ont un héritage ou bien ils ont une carrière. S'ils faisaient leur déclaration, si un malin esprit les embêtait, on pourrait sortir ce que la personne avait avant d'entrer en fonction, pour que la part soit faite. Mais j'ai la foi, Abbas,
oui, ça va se faire. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut qu'on respecte la loi. La loi dit, à la prise de fonction, lorsque vous êtes nommé et que vous voulez commencer à travailler, vous déclarez. Ça vous protège parce que vous avez des biens avant. On va devoir savoir quels sont les biens que vous aurez après. Mais aujourd'hui, on dit aux gens, en pleine fonction de déclarer leurs biens, il se peut qu'il y aurait des gens qui vont faire des fausses déclarations, puisque c'est sous pli fermé. Les gens ont fait des fausses déclarations, or on ne sait si quelque chose est prévu pour ces fausses déclarations. Parce que quelqu'un peut aller mettre un papier blanc dans l'enveloppe et déposer.
Non, qu'est-ce qu'il y a prévu? Mais non, à ce niveau-là, je crois que même si quelqu'un tente donc de faire de fausses déclarations, ça va le rattraper plus tard.
Oui.
Si lui-même, il a sous-estimé ce qu'il a et qu'il dépose, si demain, peut-être qu'il a 20 et il nous dit qu'il n'a que 10. Mais si après on retrouve qu'il a 45, ben ça veut dire que donc ça veut dire le bien que tu as aujourd'hui, tu l'as acquis de manière indue.
Il y a toujours l'œil de Caïn. Auquel on ne peut jamais échapper.
Ouais. Et puis avec les réformes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, vous allez voir par exemple si à un moment donné l'immatriculation foncière marche très bien. Vous pouvez, tout le monde sait, si vous avez un certain nombre de lots de terrain ou de maisons, même jusqu'au titre foncier, dans le journal officiel, ça doit figurer. Oui, parce que quand vous obtenez le titre foncier, ça figure dans le journal officiel. Et avec le guichet unique, il y a une certaine trace. Aujourd'hui, si vous avez 5 comptes bancaires, facilement, on peut le savoir.
Oui.
Donc, au fur et à mesure, quand même, lorsque toutes les structures seront en place, à un moment donné, les gens comprendront que à moins que tu prennes le risque d'enterrer ta richesse dans un pujard chez toi.
Ouais, les gens enterrent.
Aussi faut-il que
on a même trouvé dans les plafonds.
Le maçon qui a construit.
Il y a les gens. Merci. Je parle de fausses déclarations.
Oui.
Ça peut arriver parce que il y a des gens qui ont fait leurs immeubles. Ils les mettent au nom de leurs enfants. Oui. Les notes au nom de leurs épouses, alors que c'est pour eux. Donc, il y a ce décès de Carlos. On n'a pas tenu compte de ça. Quelqu'un qui a beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup de véhicules même, il dit, ça c'est pour les enfants, c'est pas à lui.
Bon, ok.
S'il a donné, vous voyez tout ça?
S'il a donné... Ok, revenons, terminons par quelques informations diverses que j'ai trouvées dans vos colonnes. Commençons par ce que le messager écrit. Dépotoir anarchique. J'ai d'eau usée sur la voie publique. Trop de laxisme. Circulons un peu dans le mai et nous verrons. Un peu pour, dans le même sens, le manière libéré lui parle de incivisme, pollution et dégradation de l'environnement. Le gouvernement vient de fixer les amendes. Abbas, c'est comme si tu t'étais concerté avec le messager.
Ouais, quand j'ai vu les articles, je me dis comment ça s'est passé, parce que moi j'ai vu l'arrêté interministériel qui a été signé par le ministre de l'économie et des finances Sani Naya et le ministre de la santé qui fixait les amendes par rapport à cet incivisme là où les gens jettent de n'importe quoi dans les voies publiques, ils construisent des maisons sans toilettes,
oui.
Ils font, il y a les nuisances sonores qui sont là, qui gênent les gens, tout ça là, et puis comment on dégrade les chaussures, c'est ce que nous avons mis sur nos images, nos journaux, et les amendes vont désormais de 5 000 à 2 millions de francs CFA, ça dépend. Donc si on arrête quelqu'un, il faudrait que cette amende soit puisse être mise en exécution. Mais le problème qui se pose, c'est que depuis des années avant, il y avait ceux-là qu'on appelait les agents d'hygiène, les assistants d'hygiène, qui allaient de maison en maison pour voir la propriété des maisons, des domiciles et autres. Mais aujourd'hui, avec cet arrêté, est-ce qu'on va ressusciter ces agents sanitaires qu'on appelle les samasama avant, puisque c'est
nous,
eux qui vont
appeler les tangasiteurs,
les tangas, nous on l'appelle les samasama parce que c'est eux qui vont et puis c'est ils reviennent. Si avec cet arrêté, si on ne ressuscite pas ces gens de choses, qu'on ne leur donne pas des moyens pour travailler, l'incivisme va continuer et on ne pourra même pas mettre. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des arrêtés et ça s'arrête là. Il faudrait qu'on les mette en application. Puisque les nuisances sonores, on les voit un peu partout.
Oui.
Les maisons sans toilettes et où les locataires sont là, ils vont déféquer. Alors qu'on a dit que la défection dans
la
les
défécation.
La défécation dans les lieux publics sont aussi punis de 50 000 francs d'amende. Donc si quelqu'un défèque dans la rue, ou bien sur la voie publique, ou bien dans là où il n'y a pas de latrine, c'est que la personne elle-même sera amendée.
Oui.
Donc, il faudrait qu'on mette en place et on donne les moyens à ces agents d'hygiène, assistants d'hygiène, qui vont aussi faire leur travail.
Merci. État de droit. Nous aimons nous en glorifier. Eh bien, l'État de droit vient de prendre un arrêté qui fixe les amendes sur ces actes d'incivisme. Et je vois déjà, si j'étais un maire, Fabrice, je vois déjà des occasions d'avoir de l'argent. J'organise la police de mon quartier, de mon domaine et tous ceux qui sont en violation de cette disposition là vont renflouer un peu les caisses de la mairie. Sauf que celui qui n'a pas pu construire de toilettes dans sa maison faute d'argent, est-ce que celui-là pourra payer ces amendes dont nous parle Abbas Isaka?
Oui, c'est un peu cela, mais l'amende est là quand même, effectivement, comme vous le dites si bien. C'est des quand même mesures pour dissuader et puis il faudra aussi éviter qu'une autre corruption se crée à ce niveau là où on ferme les yeux parce que bon, on a pris la moitié tout ça là et l'autre
la moitié pour soi.
Ouais, mais maintenant dans cet arrêté ministériel, il y a quand même certains termes utilisés. Bon, quand j'entends enterrement des cadavres humains, tout ça, je crois que on aurait pu trouver mieux pour exprimer cela, la formulation, tout ça, parce que c'est un peu choquant de dire enterrement de cadavres humains. Bon, on sait que l'homme n'a jamais été un cadavre. et puis ensuite, à ce niveau aussi, nous avons certaines pratiques. Je ne sais pas si on a réussi quand même à faire comprendre qu'aujourd'hui, est-ce que la pratique des cimetières familiaux existe toujours, où vous arrivez dans certains villages, chaque famille a son cimetière, on enterre partout. Je crois qu'il faut quand même faire un certain travail aussi.
D'éducation, d'information, de sensibilisation.
Avant de peut-être faire passer certaines dispositions qui sont, ma foi, très intéressantes.
Merci. On continue avec cet article qui orne la manchette de Le Libéral. Il s'agit de cette convention qui vient d'être signée entre le ministère de l'Enseignement supérieur et une banque de la place, Coris Bank, pour ne pas la nommer.
Oui, je crois que c'est une convention quand même qui permet... à l'université, ou du moins aux études, qui soulage un peu les étudiants par rapport au virement de leur bourse et aide sur les comptes, où parfois ça se fait à un moment donné où il y a une influence, ou alors qui est une sorte de préfinancement de la banque pour permettre aux étudiants de toucher, puisqu'on sait que c'est avec l'État, quand ça viendra, ça comblera le vide. Parce que pour ceux qui ont fait l'université à une certaine époque,
de Lomé,
ou du Bénin même d'ailleurs, enfin, du Bénin c'est encore mieux, temps c'était encore mieux. Parce qu'il y a eu des situations où... Lorsqu'on annonce que le virement est fait pour c'est la course et la, il faut être, à l'époque, l'ancienne BTD devenue Aura Bank, il faut être là-bas à 4h du matin pour remplir une fiche, et parfois vous n'êtes pas servi, et il y en a même, et quand vous commettez l'erreur de rater le jour de votre programmation pour retrouver votre petite bourse ou aide, c'est parti pour une autre fois. Et je crois que ça a évolué quand même. Aujourd'hui, déjà à l'université, on permet aux étudiants d'ouvrir des comptes bancaires. Je crois que avec cet accompagnement de Coris Bank également, ça vient soulager encore les étudiants dans ce chemin de croix qui consiste à aller toucher ces petites miettes là.
Merci. Je viens maintenant à toi, Sylvestre Bienny, avec très rapidement, tu reviens sur la dernière sortie de la conférence des églises, la conférence des évêques du Togo, notamment notamment sur le Covid Gate. Tu trouves curieuse la sortie des évêques sur le passage qu'ils ont consacré à la polémique sur le Covid Gate?
Oui, je me dis que les évêques auraient quand même ils auraient pu dire plus sur le sujet, parce que lorsque vous prenez le communiqué, ils n'ont consacré que trois phrases pour parler donc d'un sujet qui défraie la chronique depuis plus d'un mois. Et en tant qu'autorité morale, je crois que lorsque les valeurs morales sont en berne, je crois qu'il revient quand même à ces autorités morales là de pouvoir donc inviter les uns les autres si vous voulez, pour glisser peut-être sur le chantier de l'Église à la repentance, c'est-à-dire lorsque les cœurs sont souillés, il faudrait quand même que souillés d'iniquité, c'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas observer ou faire des choses qui puissent véritablement être donc à l'actif donc du pays, c'est-à-dire faire progresser le pays, il faudrait quand même que ceux-là soient découragés. Maintenant, quand les évêques tout le bruit avec cette affaire donc de Covid, et qu'ils viennent avec trois phrases, et lorsque vous voyez également la phrase, nous sommes dit que ces trois phrases a peut-être rappelé la Trinité au niveau donc de la Trinité.
Un peu d'ironie donc tu trouves qu'ils n'en ont pas suffisamment dit, mais toutefois les évêques ont relevé que ce rapport suscite de vives polémiques sur la gestion du fonds de riposte et de solidarité Covid-19. Les évêques déplorent les insuffisances constatées dans la gestion de ces fonds, et ils tiennent à préciser n'avoir reçu aucun intéressement, contrairement aux allégations qui circulent sur le sujet.
Ouais, autre sujet très rapidement. Tout, en fait, c'est comme si Ponce Pilate qui se lave les mains, qui dit...
Bon, autre sujet très rapidement, tu reviens sur le forum des producteurs agricoles de la région centrale. Et tu titres Sokoré, théâtre de l'enfumage. Une, deux phrases ou trois comme les évêques?
Bon, oui, trois comme les évêques, oui. Il faut juste dire, alors, nous avons écouté le président de la République la dernière fois quand il était donc dans la région centrale, notamment à Sokoré, en ce qui concerne donc le faux pâte. Et à la fin, il y a quand même une petite vidéo qui circule aussi sur les réseaux sociaux où le chef de l'État disait que dans un futur proche, d'abord il nous laisse dans l'impasse, il dit dans un futur proche, Quand on dit que je vis au Togo, ça veut dire que j'ai l'eau, j'ai l'électricité, je me soigne et je peux aller à l'école. Donc je me dis que lorsque le chef de l'État, ça fait 18 ans qu'il est là, hein, ces choses-là qu'il a citées sont les choses élémentaires, les choses les plus basiques. Maintenant, si c'est après 18 ans qu'on nous dit que c'est dans un avenir proche l'impasse, et on nous dit, oui, bon, ça sera fait, et lorsque vous écoutez donc la suite, c'est-à-dire on dit qu'il y a une stratégie que nous sommes en train de dérouler, vous voyez, dans un futur proche, en train de dérouler, mais si c'est après 18 ans qu'on nous le dit, je crois que c'est fort de café, vous voyez. Donc il faudrait véritablement que les choses se fassent de manière beaucoup
merci.
Plus complexe.
Merci. Et voilà. Puis, la fin de la semaine dernière, la CDPA a tenu son congrès avec les instances renouvelées. Madame Brigitte Kafuya-Johnson, qui a été reconduite au secrétariat général de ce parti, elle vous a accordé un petit entretien que vous publiez à la page 4, que je laisse le soin aux auditeurs, auditrices de découvrir. Et avant la pause, je reviens à vous, madame la présidente d'Amaitri. Les gens voudraient savoir si on peut adhérer à votre association et comment.
Merci.
Je rappelle que c'est l'association Mère et Amis des enfants trisomiques.
Oui, on peut s'adhérer. L'adhésion, c'est à 2000 francs.
Et on 2000 francs CFA.
Oui. Mm-hmm. Et là, on cotise 500 francs par mois.
Mm-hmm. Oui. Ok. Et qui peut adhérer?
Oh, tous les parents des enfants trisomiques peuvent s'adhérer, ainsi que les amis.
Mm-hmm. Et oui. Je présume que comme la prise en charge des enfants trisomiques a un certain coût.
Oui.
De bonne volonté qui voudrait vous
voilà,
assister
les bonnes
en
volonté.
Espèce ou en nature, c'est pas de refus, n'est-ce pas?
Non, c'est ça même on veut.
Mm-hmm. C'est ça. Mais vous l'avez pas dit, madame. Vous connaissez le passage de la Bible, Matthieu 7:7.
demandez,
peut-être on vous donnera.
Oui, madame. Donc par ce canal, je profite faire appel aux bonnes volontés, aux partenaires de nous soutenir. Et bon, c'est ça.
Vous soutenez
vous,
les familles.
Et pourquoi pour soutenir Amaitri, mm-hmm. puisque Amaitri, notre souci premier, c'est un centre de prise en charge de ces enfants-là dans la préfecture d'Agouenivé. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment un coût, c'est coûteux de déplacer nos enfants depuis Agoué vers la ville pour l'école.
Oui.
Donc, si les bonnes volontés, la commune d'Agoué qui nous écoute, que je salue, c'est un partenaire, merci. L'OMS, la FETAF, s'ils peuvent mettre, et à la JCA, Agoué Pionnier, s'ils peuvent mettre la main pour que nous ayons dans un avenir très proche un centre à Agoué-Nivé pour nos enfants.
Merci. Et pas seulement le Grand Lomé, mais pourquoi pas les grandes villes de l'intérieur.
Oui. Non, donc, chaque région de Lomé a un centre d'envol, mais les autres villes, non.
Oui, je dis.
Oui, d'accord.
Au moins, commençons par les grandes capitales, les régions,
voilà.
Les chefs-lieux des grandes régions,
oui.
Les préfectures, pour qu'on n'ait pas, on ne soit pas obligé de venir à Lomé
dans
pour
les régions,
faire prendre
oui.
16 enfants en charge.
En charge.
Alors, très rapidement, quelques questions. De proximité, le libéral qui revient sur le fond Tinga, c'est parti dans les plateaux, le Mania Libéré aussi y a consacré un article. Alors le fond Tinga, Fabrice, c'est quoi?
Oui, ça c'est le fond par rapport à la question liée à l'électrification, et donc le déploiement a démarré dans la région des plateaux, précisément mm-hmm. dans la préfecture de Logou. Lancé par la ministre en charge de l'énergie en personne.
Merci. Donc, c'est l'électrification des localités ouais. Enclavées. Je vais trouver cet article de Togo Matin qui nous parle d'un autre projet qui intéresse le Togo profond. J'espère retrouver. Voilà, c'est Togo Matin qui titre aujourd'hui. Ministère de l'eau avec le projet PAICUT, le gigantesque projet visant l'assainissement inclusif des centres urbains au Togo qui vient d'être lancé. Malheureusement, j'ai pas encore lu l'article pour le contenu, mais déjà le titre nous donne une idée de ce que cela peut être. On termine la première partie avec Abbas Isaka. Un article de manière libérée que tu nous recommanderais, à part ce que nous avons déjà évoqué.
Nous avons parlé de l'économie, c'est-à-dire de 800, lorsque l'auteur a commandité des enquêtes par rapport aux entreprises.
Oui.
Pour savoir combien d'entreprises il y a, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup qui sont inscrites au niveau CFE, mais qui ne sont pas fonctionnelles comme ça au niveau de l'OTR, qui ne répondent pas au principe fiscal. Et l'OTR a commandité une enquête. Il y avait une enquête qui s'est déroulée en 2018 et qui a concerné le Grand Lomé. Donc la deuxième enquête, ça s'est déroulé de décembre 2021 à mars 2022.
Oui.
Où on a dû, ça a concerné les régions administratives fiscales de l'intérieur du pays et à Gouaï 6, où on a dénombré près de 9000 entreprises qui sont en règle et qui répondent au niveau de l'OTR.
Eh bien, on trouvera tout ça dans les colonnes de Le Mania Libéré, hein, de Le Libéral, La Manchette et les autres journaux parus aujourd'hui. Nous n'avons évoqué que 3 ou 4 articles. Le reste, dans les colonnes des journaux que vous achetez à 250 francs CFA. Hein, un moyen également, non seulement de vous informer, mais d'appuyer la presse avec Santé Éducation qui, lui, est vendu, Abel, à 1000 francs. Comme ça, on s'informe et on soutient la presse et on donne vie à la liberté de la presse au Togo. Laquelle liberté a le défi de se professionnaliser. 93.5. Eh bien, la parole est à vous sur les deux numéros que vous connaissez, mais que je me fais le devoir de vous rappeler, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, vos questions, vos commentaires. Le premier, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Oui.
Oui, je salue tout le plateau.
Nous vous écoutons, Papa Sardinet.
C'est Papa Sardinet depuis Amoutibé, voilà.
Oui.
Pourquoi, en ce qui concerne la déclaration des biens et des avoirs, madame le médiatrice de la République, elle n'a pas fait à la prise de sa fonction. Bon, dès qu'on a commencé à parler de ça, elle a fait ça. Donc, les autres aussi n'ont pas pu prendre leur courage à deux mains et déclarer leurs biens. C'est pour leur propre sécurité. Merci, bonne journée.
Je vous en prie, Papa Sodjide. Il vous écouterait sûrement. Deuxième auditeur, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, mon grand frère, c'est Gaou.
Oui.
Bonjour, le plateau. Je me nomme Benoît. Je vous appelle Benoît. Ah.
Benoît, plutôt, quand on habite à Agoué, on doit trouver un nom beaucoup plus à Agoué, n'est-ce pas, Benoît?
Oui,
Kokou Mensan, que nous préférons.
Merci beaucoup. Bon, moi, je voulais dire la déclaration des biens là. Et je voulais dire que est-ce que les super ministres et les ministres qui ont fait 13 ans, 15 ans, pourquoi pas? Bon, les mots me manquent. Je voulais dire à nos dirigeants, soit en 2025, là, ils n'ont qu'à laisser le pouvoir, on va repartir à zéro. Et même, ils peuvent partir avec les chaises et avec tout. Et nous allons faire une transition pour que le pays marche.
Bon, nous parlons aujourd'hui de déclaration des biens et avoirs, aujourd'hui ou demain. Merci, Kokou Mensan Benoît Dagoué. Troisième auditeur, bonjour.
Ouais, Sass, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Non, grâce à Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Hein.
Merci.
Bon, la déclaration des biens, ça c'est une chose que je salue beaucoup, l'initiative du gouvernement. C'est une bonne chose pour empêcher ceux qui détournent l'argent. Bon, dites-moi ça. Cette déclaration du bien aujourd'hui, on le fait comme une confession de l'Église catholique, on va voir le prêtre. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on devait le faire? Ou Les gens ont plus de 30 maisons à Lomé. Les gens ont plus de 100 lots à Lomé. Quand on parle du bien, les gens croient que des biens matériels et autres, les gens ont des milliards. D'autres moments enterrés ça dans leur maison. Dites-moi ça. Est-ce que vraiment c'est une sincérité dedans? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu? Donc, c'est ce que j'ai quand même à dire. Que nous devons tout ce que nous allons faire, pensons que Dieu est là et que si nous ne le faisons pas bien, c'est ça qui va nous accompagner un jour.
Merci. Ce que vous dites là, ce sont des allégations. Nous parlons de ce que la loi organique dit, les conditions dans lesquelles ce taxe doit se poser. C'est ce qui nous tient à cœur à nous. L'auditeur suivant, bonjour.
C'est Monsieur Garou.
Monsieur Garou, oui.
La voiture ne tremble pas.
Vous voulez déclarer vos biens?
Non, c'est ça, j'ai une idée. Tous ceux qui ne veulent pas déclarer existent. Donc, c'est qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, le gouvernement n'a qu'à prendre un cita pour aller ramasser tout ce qu'ils ont dans la maison. Bon, les gens qui n'ont des WC, ils n'ont pas de WC, ils n'ont pas d'argent pour payer la manne, ils n'ont qu'à faire trois.
Allô, Monsieur Garou?
Oui.
Oui. On n'a pas bien entendu la fin.
Je dis, les gens qui n'ont pas de toilette chez eux, et ils sont pour ne peut pas payer la manne, ils n'ont qu'à aller faire trois mois de prison. Donc, ils vont chercher l'argent. Merci.
c'est M. Garou avec son style particulier, un peu d'ironie, pour semer un peu d'humeur, un peu de la bonne humeur. Oui, bonjour.
Oui, M. Sass, bonjour.
Oui.
Oui, effectivement, il faut qu'on close ce dossier-là. Sass, pardon. Et franchement, c'est comme remuer le couteau dans la plaie. Les parents qui sont proches de Joël et Vignon et Gare. Pardon, il faut que ces dossiers soient clos. Pardon.
Merci.
Et pour madame,
oui.
Effectivement, je vais l'appuyer. Il y a une réponse de Jésus qui m'intéresse dans la Bible. Quand on lui demande est-ce que c'est l'enfant qui a péché ou bien c'est les parents qui ont péché, la réponse, ça me plaît toujours. C'est pour la gloire de Dieu. Il faut qu'on aime ses enfants. Je l'encourage vivement et je lui demande de s'approcher des autorités pour des appuis. Merci.
Merci beaucoup. Je rappelle justement que nous avons parlé des enfants trisomiques, à la problématique de leur prise en charge, toutes ces questions de santé, la convention entre l'enseignement supérieur et Coris Bank, ces sujets de proximité qui devraient nous intéresser parce que c'est ce que nous vivons au jour le jour. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Akiza.
Monsieur Akiza, ok, nous vous écoutons.
Oui, je vous appelle d'Agoué.
Agoué?
Oui.
Ok, nous vous écoutons, monsieur Akiza, depuis Agoué.
Bon, par rapport aux déclarations des biens, là.
Oui.
Et bon, les gens puissent de l'eau dans la jarre, ils vont y verser dans le marigot, là. Est-ce qu'ils peuvent vous dire qu'ils puissent de l'eau dans la jarre pour aller verser dans le marigot? Donc, ils ne peuvent pas déclarer leurs biens. Et la manière dont ça se fait même là, est-ce que c'est bon?
Encore une fois, nous nous en tenons aux dispositions de la loi organique. Si la loi n'est pas bonne et qu'on veut la changer, on sait la façon. Mais pour le moment, qu'est-ce que la loi dit? C'est ce à quoi nous invitons les assujettis.
Sinon, la manière dont ils font ça là, c'est pas bon.
Ok. Merci, M. Akiza. Ou plutôt, le balai, M. Akiza. L'auditeur suivant, bonjour.
Mon directeur, bonjour tout le plateau.
Oui, Papa Sibiti.
Nous invitons Madame de la remercier qu'elle voit l'État, le gouvernement, pour que rien ne vaut l'éducation pour ses enfants. Même nous tous, nous devons lutter pour que les enfants aient une bonne éducation, une bonne santé, une longue vie. Mm-hmm. Merci pour leur institution.
Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. À Madame la présidente de la Maïtrie, bonjour. À tous les parents qui ont en charge les enfants trisomiques. Oui, bonjour l'ami en ligne.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Eric depuis Aïdogomé.
Eric, nous vous écoutons.
Oui, s'il vous plaît, je voulais passer par Canal FM pour dénoncer quelque chose qui se produit sur la voie d'Aïdogomé.
Nous avons parlé de ça aujourd'hui.
S'il vous plaît.
Nous avons parlé de ce sujet-là aujourd'hui.
Non, au fait, c'est un phénomène qui se produit tout le temps, donc. Je voulais juste attirer l'attention.
Ok, allez-y rapidement, s'il vous plaît.
Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a certains qui passent par la voie d'Aïdogomé les soirs.
Quelle voie?
Oui, en allant à la maison le soir, on constate qu'il y a des élèves après les classes qui prennent la voie pavée qui est au milieu.
Vous parlez de quelle route? C'est
La route d'Agido-Gomé. Vous venez de la Djouane jusqu'au niveau de Zangira, vous allez constater qu'au milieu de la voie,
le terre-plein.
Il y a un terre-plein en parrain qui est pavé.
Oui.
Donc, quand les élèves sortent, ils sont, au lieu de traverser la voie en même temps, ils traversent une partie de la voie et ils commencent par marcher sur les pavés qui sont au milieu.
Mm-hmm.
Maintenant, le danger qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une rupture de la voie, ils sont obligés de descendre, de traverser la chaussée et de monter encore sur les pavés.
Oui.
Et hier, ce qui m'a un peu fait peur, c'est qu'en rentrant, j'ai vu trois élèves en train de jouer au ballon sur cette voie pavée.
Uh-huh.
Ce qui fait que si, en cas de perte de ballon, ils risquent de causer un danger. Donc, je voulais attirer l'attention des responsables d'établissement qui écoutent de temps en temps aussi le club de la presse, de sensibiliser leurs élèves pour que après les cours, soit ils traversent la voie en même temps pour aller sur l'autre choix ou bien ils marchent sur l'autre choix qui est sur lequel ils sont.
Merci beaucoup. Information importante, oui. Le leader suivant, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour mon patron.
Bonjour, c'est Patrick.
C'est lui-même.
Oui, nous écoutons.
Comment vous portez ce matin?
Nous rendons grâce à Dieu.
Merci. Moi, je voulais juste vous dire un grand merci et remercier tout ce que vous recevez pour nous parler de la médecine. Depuis deux ou trois semaines, je constate qu'il y a des séminaires, il y a des audiences foraines qui s'organisent dans notre capitale et c'est une bonne chose pour la population.
Mm-hmm.
Et je voulais faire un appel à tout le monde que même si nous ne souffrons pas d'un mal, au moins dans nos villages, dans nos milieux les plus reculés, il y a des malades qu'on peut faire venir pour qu'ils soient pour cette occasion-là. Donc c'est un appel avec tout le monde, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui.
Merci. Je rappelle que les chirurgiens qui doivent tenir leur congrès incessamment prévoient des opérations, des consultations foraines suivies d'opérations même dans l'Est Mono, préfecture de l'Est Mono. On peut s'en informer pour les nôtres. Le suivant en ligne, bonjour.
Oui, c'est M. Akiza qui revient.
Ok.
Par rapport au projet d'Anadev, ils n'ont qu'à revenir sur ça, on va mieux comprendre les choses là.
Ok, nous y reviendrons avec la disponibilité des conseils.
Monsieur
Akiza, nous avons dit, vous interrompez sur les questions du jour.
Mais bien,
oui.
Tous ceux qu'ils appellent là, ils n'ont qu'à donner leur nom authentique. On ne veut pas les noms importés là. Chacun n'a qu'à donner son nom authentique là.
Ok. Vous êtes vraiment Monsieur Akiza?
Oui.
Akiza quoi, s'il vous plaît?
Akiza Kamazenao.
Kamazenao. Là, c'est authentique. Oui. Merci beaucoup. Elle l'a balayé encore une fois. Merci beaucoup. L'auditeur suivant?
Oui, Monsieur Tass, bonjour.
Oui.
Malheureusement, il ne peut pas nous forcer à donner nos noms.
Non, il ne force pas. C'est un souhait, c'est un vœu qu'il émet.
Moi, c'est Mathieu.
C'est authentique?
Vous dites?
C'est authentique?
C'est authentique.
Ok.
C'est par rapport aux déclarations des biens.
Oui.
Un conseil à notre autorité. Ceux qui feignent en déclarant, en donnant certains biens à leurs femmes, à leur épouse ou aux enfants, ça peut être souci de conflit demain. Il peut y avoir divorce. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Quand on se marie, le divorce peut fatal ou porte à n'importe quel moment. Deuxièmement, on peut ne plus être de ce monde et qu'on a eu des enfants qui n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que les premiers qu'on a gagné leur compte. Et ils sauront comment. Donc, quand ils veulent faire leur manœuvre, ils réfléchissent bien longtemps. Mm-hmm. Parce qu'un malin, un et demi.
Merci beaucoup. C'est juste un cas de figure qui a été évoqué. Il n'est pas avéré que quelqu'un a fait comme ça. Le dernier auditeur, bonjour.
Allô.
Oui.
Bonjour.
Ah, c'est ici?
Ici.
Ok.
Voilà. Je vais énumérer quelques noms là.
Oui.
Apricia Itié, Ashcon, CVGN, Médiatrice, FNFI, Anadep, tout ça là. Est-ce que ça existe aussi en France? et au Bénin voisin.
Et si nous sommes au Togo, nous sommes au Togo, nous parlons des réalités de notre pays.
De notre pays, tout ça là, ça nous fatigue. Pourquoi on va créer tous ces noms-là au Togo seulement? Et puis, ANSRI, SCRIC, ça existe aussi en France. Et même, bon, et même si ça existe, si ça existe là-bas, et quelles sont les lois qui régissent ces centres-là? Je sais que ça se trouve dans la charte de l'impérialisme sur le partage de l'Afrique. Les Africains n'ont qu'à être sérieux pour arrêter ça, ces centres. Mm-hmm. Ils n'ont qu'à être sérieux, suivre la constitution qu'ils se sont donnée, alterner et raisonnablement pour éviter ces centres et même les djihadistes. Hein, il faut qu'on alterne raisonnablement à la tête de nos États. Mm-hmm. Voilà, pour éviter tout ça. Non, et pour l'histoire de déclaration de biens,
oui.
Ça va aussi faire l'alternance que les gens refusent dans ce pays. Il faut alterner pour éviter qu'on attende l'arrivée de Madame Awa Nana, flanquer trois postes.
Oui, Madame Essi, je sais que pour vous, la solution fétiche, c'est l'alternance pour régler tous nos problèmes au Togo.
C'est obligé dans une république. Pour pas qu'elle se trouve dans cet état-là. Hein, on attend l'arrivée de Madame Awa Nana pour que les gens aillent lui déclarer leur magot de 60 ans qu'on a réduit à combien d'années? On ne sait même pas.
Merci beaucoup. Hein.
Et puis c'est en catimini, hein. C'est en catimini dans un trou.
Merci à Essi, à tous les noms. Je présume que c'est les noms authentiques que vous avez déclinés. En tout cas, nous sommes authentiques, n'est-ce pas, Madame la Présidente Amaitri?
Bien sûr.
Bien, votre conclusion pour cette émission?
Je dis un grand merci à vous, Sass, tous les auditeurs et à tout le monde ici sur le plateau. Merci. Merci à l'OMS, à la commune d'Aguenivé, à la FETAF et toutes les bonnes volontés, à JCI, à Aguenivé Pionnier. Et à toutes les bonnes volontés pour venir vraiment en aide à Amaitri. Nous avons un compte bancaire, nous avons nos comptes Flous et Timoni, de nous aider pour que nous puissions avoir une école pour nos enfants. Mm-hmm. Parce que c'est à l'école, ils peuvent aussi, ça peut les aider à acquérir leur autonomie.
Et à s'insérer dans la société.
Et en ce temps, nous aussi, on pourra vaquer à nos occupations. C'est la vie ça. Est dure. On est obligé de rester à la maison, de les surveiller. On dit vraiment pardon à tout le gouvernement. Je sais que nos mamans du gouvernement m'entendent. Il y a
les papas aussi.
Les papas aussi. Bon, quand je dis mère, puisque c'est une mère qui vraiment sait comment c'est souffrir pour son enfant.
Non, je connais des papas qui sont beaucoup très sensibles par rapport aux femmes. D'accord. J'en connais même dans ce studio.
Merci beaucoup. Et je profite aussi de dire que nous aurons à aussi distribuer des vivres et des non-vivres dans les quatre centres de Lomé. Il y a dans ces vivres. Il y a les vivres pour renforcer et susciter le goût d'étude chez ces enfants, c'est-à-dire renforcer leur cantine scolaire.
Oui.
Et puis faire les dons de filtres à eau aussi. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup.
Beaucoup de courage, Madame Agbasi Ouadja.
Merci beaucoup.
Et à tous les membres de l'association, à tous les parents qui ont à charge les enfants trisomiques 21.
C'est Basi moi qui Sakra, vous remercie.
Oui. Donc, à temps de fin d'émission.
Oui, avant mon carton de fin d'émission, c'est pour relever une situation quand vous arrivez au niveau de. Comment on appelle ça? Après, à ta première paysage, station de paysage qui a été.
À Djerewe.
Oui. Vous voyez comment les titans bloquent la circulation. On ne sait pas ce qui se passe. Et ça crée même des désagréments. Pour la circulation.
Ça ralentit beaucoup la circulation.
Vous allez voir les titans qui s'alignent sur une longue file d'attente.
Oui.
On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est les machines qui ne travaillent pas bien ou c'est les gens qui travaillent là-bas qui ralentissent les activités? Ça ralentit les activités, la circulation ainsi.
Alors que c'est la seule voie nationale
numéro 1. Il faudrait que les chargés de cette station de paysage puissent revoir comment faire la, pour que la fluidité de cette la circulation merci, puisse venir.
Merci pour ce vieux constaté.
Par rapport au carton vert ou à la CCIT qui a décidé de mettre pour le tracking des marchandises à l'intérieur du pays, dans l'Interland, de mettre un nouveau système pour permettre de sécuriser les marchandises qui traversent tout le pays.
Merci. Abel Ozi, Santé Éducation.
Oui, juste un carton rouge à tout citoyen qui, en fait, à tout citoyen qui crée des dépotoirs sauvages, qui jette des ordures dans les caniveaux, déverse des eaux usées sur les voies publiques. Carton rouge à tout citoyen. L'environnement doit être préservé et également notre santé également.
Mensana incorpore sano, mais puis surtout souhaiter que le gouvernement ou les maires ou les préfets fassent appliquer cet arrêté ministériel qui punit ces actes d'incivisme. C'est un peu d'argent dans les caisses de nos communes. Sylvestre Kokoubeni.
Non, j'ai pas de carton, mais rapidement, vu constaté, quand je venais à l'entrée principale de l'université de Lomé, j'ai vu une vieille, vraiment une vieille, quand je parle de vieille, c'est vieille, quoi. Une vieille qui a été amputée, donc, du pied gauche, et qui est là, et qui... Mais c'est bandé, en fait,
Oui.
Et elle était là, il y a ses proches qui circulent au niveau, donc, de... puisqu'il y a les feux tricolores, donc, ses proches circulent demandant, donc, de l'aide. Et aux usagers de la route enfin qu'on puisse peut-être nourrir et soigner cette vieille là. Je crois qu'il y a des affaires sociales dans ce pays. Il faudrait véritablement que pour ces cas là qu'on y pense véritablement, parce que ça devient légion. Quand je parle de vieille, c'est vraiment une vieille qui souffre, quoi, parce que je l'ai vue. Bon, c'est vrai qu'elle a le cache-nez et tout, mais du moins la selle m'a parlé.
Mais ces jeunes, les membres de sa famille qui quémandent là-bas, ils ne pourraient pas plutôt aller travailler, gagner valablement de l'argent et entretenir leurs parents?
Voilà. Sinon, bon, la vieille est là, je passais autour de...
Je comprends, voilà, je comprends.
La scène m'a
alors, passé. Sylvestre Kokou, non, non, Fabrice Kokou, pardon. Il y a un autre prénom là, tu as donné une voix?
Terroré.
Pardon?
Tarioré.
Tarioré.
Okay. Bah, tu es arrivé facilement.
Je présume, c'est authentique. Sinon, je suis à Kiza, nous suit. Ok, toi, carton de fin d'émission.
Non, je ne suis pas un carton, mais je voudrais juste attirer l'attention des autorités dans le transport sur un élément. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous avons très peu de passerelles sur nos routes. Très peu. On les compte d'ailleurs au bout des doigts. Mais vous constatez que les travaux sont terminés, mais il y a toujours une barrière. Je ne sais pas si c'est pour orner les routes ou alors c'est pour permettre aux usagers de la route de les utiliser. Au Grand Marché, je ne vois personne utiliser, c'est barré. Les deux qui sont conçus sur la route du contournement, c'est barré. Bon, à quoi servent vraiment les passerelles? Ou alors on attend le 27 avril pour l'inauguration officielle avant leur utilisation. Je crois qu'il faudra quand même que les infrastructures que nous mettons en place, qu'on puisse permettre aux populations de les utiliser. Ça peut limiter certains accidents.
Merci. Tout le club La Presse s'associe avec un carton de cœur, non seulement à Maïtri, mais à tous les parents d'enfants trisomiques. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous prions que non seulement l'État, mais les bonnes volontés, les organisations nationales et internationales puissent se porter à vos côtés. Voilà même la cause humanitaire qui mérite d'être soutenue. Il en sera ainsi. Nous avons la foi. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.